Le procès de Slobodan Milošević s'ouvre en 2002.
Ninon Maillard, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du droit.
Il va durer jusqu'en mars 2006, puisque c'est en mars 2006 que Slobodan Milošević meurt. Et on a, pour expliquer la longueur de la procédure, on a 66 chefs d'accusation. 2 années pour la présentation des éléments à charge, c'est-à-dire 2 années consacrées uniquement à l'accusation. 300 témoins entendus et plus d'un millier de pièces enregistrées comme preuve.
Slobodan Milošević, le nettoyeur des Balkans, 4e épisode. Un procès sans condamnation. Alain Lefkovic, Marie-Laure Ciboulet.
Tout chez l'accusé Milošević est instrument au service de sa quête de pouvoir. Il ne faut pas chercher d'idéaux derrière les actes de l'accusé.
Archive France 3, 2002.
Au-delà du prétexte nationaliste et de l'horreur du nettoyage ethnique, derrière la rhétorique grandiloquente et la langue de bois obsolète, c'est bien la recherche du pouvoir qui motive Slobodan Milošević.
Milošević, lui, reste impassible. Le dossier est particulièrement épais. Le préambule des procureurs a pris du retard et devrait se poursuivre demain matin. Slobodan Milošević aura ensuite au moins une journée pour s'exprimer.
Milošević ne reconnaît pas le tribunal international. Ceux qui sont inculpés en général ne reconnaissent pas d'ailleurs.
Florence Hartmann, ancienne journaliste pour Le Monde en ex-Yougoslavie, a couvert les conflits de la région avant de rejoindre le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un système à dominante anglo-saxon, de droit anglo-saxon, le tribunal. C'est deux camps qui s'affrontent. Le procureur contre la défense, les juges, ils comptent les coups. Ils posent quelques questions pour clarifier, mais il n'y a pas de juge d'instruction. Donc c'est vraiment deux camps qui s'opposent. La défense doit donc être extrêmement agressive. Et Milošević veut être son propre avocat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'avocat. Hein. Il est assisté d'avocat, mais c'est lui qui veut organiser et c'est lui qui veut parler.
Cela faisait que c'était lui qui interrogeait les témoins.
Carla Del Ponte, ancienne procureure pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Et là, naturellement, on n'aurait pas dû l'autoriser à le faire. Parce que vous voyez, quand vous êtes interrogé par votre ancien président, beaucoup de ces témoins se sentaient dans une situation assez délicate.
Il participe au contre-interrogatoire, mais en même temps, il fait obstruction. C'est-à-dire qu'il ne collabore pas avec la justice. Et ça se voit dans son attitude.
Ninon Maillard.
Il est agressif. Soit il se trouve dans une attitude nonchalante, un peu hautaine, un peu méprisante, ou alors les bras croisés, sourcils froncés, dans une attitude véritablement butée. Rien qu'en le regardant, on voit qu'il n'a pas du tout l'intention de faire avancer la justice, de toute façon, hein, de participer et de collaborer.
C'est parce qu'il veut faire d'un tribunal qu'il ne reconnaît pas, une tribune politique.
Florence Hartmann.
Contre les Occidentaux, contre la justice, contre ceci, les Serbes étaient des victimes, etc. Un discours qui a de l'importance pour l'opinion serbe, qui n'a aucun effet sur les accusations.
Il est toujours sur cette même ligne qu'il y a un complot contre les Serbes.
Ninon Maillard.
Les ennemis varient, c'est le Vatican, l'OTAN, les États-Unis, les services secrets français. Enfin, la Serbie, est la victime. Et lui aussi est la victime d'un harcèlement et d'un complot international contre les ambitions légitimes des Serbes. C'est son discours parce que ce sont les Serbes convaincus qui l'écoutent. Hein. C'est à eux qu'il parle.
L'enclave de Srebrenica est tombée aux mains des Serbes le 11 juillet dernier.
Archive France 2, 24 août 1995.
On sait maintenant que la prise de cette ville a été accompagnée de nombreuses exactions, d'exécutions sommaires pour ne pas dire de massacres. C'est en ce sens que conclut le rapport établi par le Polonais Tadeusz Mazowiecki, Reportage exclusif de nos envoyés.
C'est le massacre de l'enclave de Srebrenica, symbole de la politique génocidaire de Slobodan Milosevic, qui va relancer l'intérêt des médias pour un procès qui s'éternise.
Par exemple, cette audience du 1er juin 2005 où le procureur Geoffrey Nice décide de diffuser cette vidéo des scorpions, bon, ça fait la une du journal de 20h en France, avec un titre fort, quoi.
Si les Serbes se plaignent, ils sont pourtant accusés d'avoir commis des crimes de masse. 6000 musulmans auraient disparu. Et selon l'ONU, des exécutions massives auraient eu lieu, ce que dément le maire de Srebrenica.
Et il se trouve que ce qu'on voit à l'image, nous, ce sont les premières images de la vidéo des scorpions, c'est-à-dire des corps enchevêtrés, allongés, les mains liées dans le dos, et une botte d'un des paramilitaires serbes qui écrase les corps allongés des futures victimes et qui met un coup de botte extrêmement violent dans la tête de l'un d'eux. Et Milosevic ne rebondit pas du tout, évidemment, sur cette violence. Il conteste l'authenticité du film et il est de toute façon dans la négation de l'implication des Serbes dans ce crime. Il n'était au courant de rien et il va même jusqu'à soutenir que les massacres de Srebrenica ont été commis par les services secrets français, précisément pour nuire aux Serbes. Donc c'est sa thèse. Et Slobodan Milosevic ne nie pas qu'il a pu aider les Serbes de Bosnie, mais que c'était davantage sous la forme d'une aide humanitaire. Mais qu'il a à aucun moment participé à décider et à donner l'ordre de crimes commis contre les Bosniaques.
Quand on a des procès comme ça à un niveau de chef d'État, en fait, il faut qu'on prouve la responsabilité de commandement.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We're Not Weapons of War.
Effectivement, Milosevic, il n'est pas sorti de son petit bureau et il n'est pas allé torturer des gens dans un camp, même si, en fait, dans l'absolu, ça aurait pu arriver, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas pour Milosevic. Donc, en fait, ce qu'il fallait prouver, c'est qu'il était au courant de tout, qu'il avait le pouvoir de décider et qu'il soutenait, et politiquement et de manière opérationnelle, par rapport à sa position de chef d'État, la politique de nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine et celle au Kosovo.
La bonne chose des militaires, c'est qu'ils mettent tous par écrit.
Carla Del Ponte.
Donc, on devait simplement avoir accès aux archives militaires pour avoir, et ça, on a quand même réussi à les avoir. Donc, oui, peut-être, on n'a pas la présence directe, mais la connaissance et l'acceptation de ce qui s'est passé, on l'a prouvé maintes fois.
On ignore toujours les causes exactes de la mort de Slobodan Milosevic, 64 ans, qui souffrait de troubles cardiovasculaires. Le procès de l'ancien homme fort de Belgrade, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, avait été à plusieurs reprises suspendu en raison justement de ses problèmes de santé.
Archive France 3, 11 mars 2006.
Slobodan Milosevic a été trouvé sans vie aujourd'hui dans sa cellule. Ses proches rendent le tribunal pénal international responsable des accusations aussitôt rejetées.
Il a des problèmes de santé, il fait valoir ça. Avec l'aide de la Russie, il essaye d'obtenir un traitement médical, donc une pause dans le procès et d'être traité dans une clinique en Russie. Les autorités russes, via l'ambassade, sont très présents, etc., etc. Et ils insistent pour qu'il y ait une remise en liberté provisoire le temps d'un traitement ou d'une convalescence, etc., pour qu'il redevienne en forme en Russie. Ce qui ne lui est pas accordé, parce qu'il y a le risque qu'il ne revienne pas, ou le risque qu'il soit déclaré décédé, puis qu'il ne le soit pas. Enfin voilà, il y a quand même un problème. Et les médecins, tous conviennent, que ce soit les médecins de l'ONU, son médecin serbe, plus les médecins observateurs russes, tout le monde est d'accord, il a de la tension artérielle, il doit être soigné, et ils s'aperçoivent que les médicaments qui lui sont prescrits n'ont aucun effet. Donc, ils font faire un examen médical poussé, et il découvre des traces de rifampicine qui est un antibiotique qui a la particularité de neutraliser l'effet des médicaments contre la tension artérielle. Et de toute évidence, il ne voulait que détériorer sa santé pour forcer le tribunal à une évacuation. Je pense qu'il espérait mourir dans la datcha où vivaient sa femme et son fils à Moscou et pas avoir une crise cardiaque aussi fulgurante.
Quand il meurt, on est très fâché parce que j'étais prête à faire mon réquisitoire.
Carla Del Ponte.
Une partie de mon réquisitoire parce que moi, j'aurais fait l'introduction la plus importante et puis mes collègues, mes substituts ont continué. Et donc, moi, j'étais tout à fait prête et c'était pour moi professionnellement très important, n'est-ce pas? C'était la première fois qu'un ex-président d'une nation passait en justice. Et non, et là, naturellement, il est mort, donc terminé, fini.
Le juge a détruit le jugement provisoire.
Hein. Ninon Maillard.
Vous savez, sur des procédures longues comme ça, la chambre prépare, tricote tout au long de la procédure sa décision. Hein. C'est pas à la fin des 5 ans que tout à coup ils se mettent à écrire leur jugement. Donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des audiences. Eh bien, ce document provisoire, après la mort de Milosevic, a été détruit.
Boucher des Balkans pour les uns, martyr et bouc émissaire pour les autres, Slobodan Milosevic a été enterré ce soir dans le jardin de la maison familiale.
Archives RTS.
Mais sans sa famille.
18 mars 2006.
Quelques officiels serbes étaient présents pour ce dernier acte. Des rares délégations étrangères aussi. La Chine, Cuba, l'Ukraine, la Biélorussie et bien sûr la Russie. En tout, pas plus de 70 invités.
L'implication de Slobodan Milosevic ne fait aucun doute hein, et les preuves accumulées par le bureau du procureur et qui ont été dévoilées à l'occasion de ces 50 procédures ont convaincu, bien entendu. Maintenant, en Serbie, la condamnation manque quand même. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le fait qu'il n'y ait pas eu condamnation pour dire qu'il y a innocence. Évidemment, c'est du négationnisme. Hein.
S'il n'y a pas de justice internationale, là, on peut être sûr que rien ne sera jamais réparé.
Colonel Eric Emeraud, numéro 1 de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité.
Donc ce travail qui est effectivement un travail long, fastidieux, et qui est pour moi capital dans la lutte contre l'impunité, contre les crimes contre l'humanité, contre la haine, etc. Si elle ne passe pas, là, on est sûr que derrière, forcément, on a les mêmes logiques. De déni. Et on le voit bien actuellement d'ailleurs avec l'action de Poutine qui retravaille l'histoire, qui crée une sorte de fiction avec les nazis. Alors en Bosnie-Herzégovine, c'était la fiction avec les musulmans, etc. Qui fait que tous ces gens-là croient à tout ça. Ils sont quasiment endormis. Et au final, quand ils se réveillent, c'est un peu comme le GHB. Ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait avoir, quoi, manipuler.
Sur tout le territoire, il y a quand même des relents nationalistes extrêmement forts. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que notamment les 10 dernières années, il y a une espèce de renouveau des nationalismes. Mais là, mais que ça soit en Serbie, en Croatie et même en Bosnie-Herzégovine, dans une certaine mesure, il y a une espèce de renouveau des nationalismes qui se fait, et surtout chez les jeunes.
Céline Bardet.
Ce sont des jeunes qui plus est, qui ont souvent 20 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas vécu le conflit. Donc ça, c'est toujours latent, en fait, sur ce territoire. Et après, toute la question, encore une fois, elle est de comment on voit le conflit. Quand on est à Belgrade, l'histoire du conflit en Bosnie-Herzégovine, elle n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, on ne l'enseigne pas à l'école de la même manière que si on est à Sarajevo ou que si on est à Zagreb. Et c'est ça, la problématique des Balkans. C'est qu'en fait, il n'y a pas quelque chose qui est là, qui est posé, alors que l'objectif du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'était ça aussi. C'était de poser les choses.
C'était Slobodan Milosevic, le nettoyeur des Balkans, avec Munira Subadzic, Sura Sinanovic, Florence Hartmann, Céline Bardet, Ninon Maillard, Carla Del Ponte et le colonel Eric Emeraud. Avec les voix de Lise Combe, Violette Fossat et Mercia Nedzic qui a assuré la traduction des témoins. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Husenbazic, rescapée de la guerre de Bosnie, spécialiste des crises et des conflits, ancienne du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Merci également à Jean-René Ruez, chef de l'équipe Srebrenica du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Merci enfin à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire.
Le procès Milosevic, il reste symbolique au niveau du droit parce qu'il a quand même montré que, un, on pouvait mettre en accusation un chef d'État en exercice, et deux, comme c'est toujours la question de dire « ah oui, mais est-ce qu'un jour il comparaîtra ?» Ben deux, lui, ça a été l'exemple de celui qu'on a réussi à faire comparaître, qui a été emmené au tribunal. Aujourd'hui, il y a 4 chefs d'État qui ont été mis en accusation par la justice pénale internationale, et Milosevic, c'est le seul qui a comparu devant une salle d'audience. Bachir, le président au Soudan, il a été mis en accusation, il était encore président, mais aujourd'hui, il continue de se balader. Kadhafi, il est mort en Libye, donc fin de l'histoire. Et aujourd'hui, on a Vladimir Poutine. Donc, c'est pas rien, quand même. Milosevic, c'est peut-être celui qui reste le symbole de la preuve que ça peut marcher.
Mixage, Delphine Baudet. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.